la chronique de Canal Académie.
Les chroniques sur l'Union européenne par Jean-Dominique Giuliani.
En ce début d'année 2011, les événements internationaux s'enchaînent si rapidement qu'ils en bousculent l'Europe institutionnelle. Révoltes arabes, crise nucléaire au Japon, Côte d'Ivoire n'ont pas réellement vu l'Europe émerger comme une puissance majeure sur la scène internationale. La nouvelle ministre des Affaires étrangères de l'Union, Catherine Ashton, semble débordée par la mission impossible que lui a confiée le traité de Lisbonne, faire en sorte que l'Europe s'exprime d'une seule voix. Et son service diplomatique européen, qui se met en place depuis le 1er janvier, n'a pas vraiment encore eu le temps de s'imposer comme un outil utile. L'Europe marche au pas, cherchant à s'entendre, pendant que le monde court. Elle ne parvient pas toujours à se donner à l'international le poids de son économie et de ses réussites internes. L'unification du continent présente en effet trois caractéristiques. Elle est lente et progressive, car nos États aux traditions séculaires correspondent à une réalité incontournable, et décider à 27 est bien difficile. Elle est complexe et technique, car elle organise le partage de pans entiers de nos souverainetés en vue de plus d'efficacité, mais cela demeure un exercice diplomatique et juridique, compliqué et assez inédit dans l'histoire. C'est enfin un projet de longue haleine qui ne peut que s'inscrire dans la durée. Et c'est peu de dire que le monde d'aujourd'hui est rapide, simplificateur et pressé. Pourtant, l'année 2010, déjà sous la pression d'une crise économique et financière venue de l'extérieur, avait testé sa solidité, sa monnaie, son unité. Dans la douleur et sous la pression, les réponses de l'Europe sont finalement venues à l'initiative de l'Allemagne et de la France. L'intégration économique a plus progressé en un an qu'au cours des 10 dernières années, et l'euro, que nombre de commentateurs voyaient disparaître, est toujours là, plus fort que jamais de la confiance des investisseurs, deuxième monnaie de réserve du monde. En 2011, c'est l'Europe stratégique qui est interpellée à son tour, et l'Union ne semble pas en mesure d'apporter des réponses aussi claires. Ce sont les États membres qui ont agi plutôt que les institutions communes. Et beaucoup ont conclu que dans les crises, ce sont ces États, ce sont eux et eux seuls qui détiennent les garanties du dernier recours, la puissance financière ou la force armée. Pourtant, à y regarder de plus près, les choses sont plus nuancées. En réalité, les révoltes arabes plébiscitent le mode de vie européen. Cette combinaison de démocratie et de prospérité qui n'est possible qu'au moyen de la liberté et d'une vraie solidarité. Le modèle européen a plus fait que tout autre pour réveiller les jeunes et les intellectuels arabes, désireux de secouer le joug des dictatures et de participer à la croissance et surtout à la culture politique mondiale, par exemple au moyen des réseaux sociaux et d'Internet. En Méditerranée, la vérité des chiffres oblige à dire que l'Europe et ses États membres sont très présents, ici comme ailleurs, au travers de programmes d'aide et d'assistance pour les populations bien supérieures à ce que toute autre puissance dépense, au Maghreb ou au Machrek. On doit faire encore beaucoup mieux, mais l'Europe représente déjà 60% de l'aide au développement distribuée dans le monde et elle n'est pas ici vraiment en retard. Non, les vrais problèmes de l'Union restent sa capacité à décider et sa réticence à faire usage de la force au service de sa diplomatie. À 27, c'est compliqué. L'Union n'est pourtant pas condamnée à l'inaction. Quelques États, comme toujours depuis le début de l'histoire européenne, entraînent les autres et montrent la voie. En l'occurrence, la France n'a pas à rougir. Elle a pris ses risques en Libye avec la Grande-Bretagne, a su convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU, puis ses partenaires, de passer à l'action. Elle fait de même en Côte d'Ivoire. La réalité de l'existence d'une communauté internationale s'impose peu à peu. Elle n'est que la traduction de la volonté d'une opinion publique mondiale qui ne supporte plus d'assister sans bouger aux massacres et à la répression dont le souvenir hante notre mémoire d'Européens. Et c'est l'honneur de l'Europe de l'avoir dit et de l'avoir imposé. S'agissant du recours à la force, il faut comprendre les hésitations de nos partenaires comme le résultat d'un immense succès. Les Européens, qui ont déclenché au XXe siècle les deux pires conflits mondiaux, sont désormais convaincus de l'existence de paix. La leçon a été apprise, les Européens sont pacifiques et au premier rang d'entre eux, les Allemands. C'est vrai, c'est un fait historique, mais il est positif. Pour autant, nous devons réapprendre la dure réalité des rapports internationaux avec prudence et circonspection. Malheureusement, l'usage de la force demeure nécessaire au service du droit, de la paix et de la liberté, mais désormais à condition qu'il soit encadré, maîtrisé et sa nécessité partagée. La France et la Grande-Bretagne ne doivent pas être critiquées pour l'avoir fait au moment où les États-Unis, qui en avaient abusé, ont montré un recul nouveau et inédit. Mais en tout état de cause, on ne doit pas se tromper sur l'interprétation de ces évolutions. Certains ont conclu trop vite que seuls les États peuvent agir efficacement sur la scène internationale et que c'est la fin de l'Europe. D'autres que ces événements ruinent pour longtemps les efforts de constituer une Europe de la défense et une diplomatie commune. Ni les uns ni les autres n'ont vraiment raison. En agissant à l'initiative de quelques-uns, rejoints ensuite par les autres, les États européens poussent l'Union à rechercher plus d'efficacité, comme elle l'a déjà fait sur le plan économique. Mais ces valeurs, elles, s'imposent déjà comme des références attirantes pour tous. Il reste bien sûr beaucoup de travail à faire pour l'Europe. Il sera long, comme le temps de l'homme, c'est-à-dire le temps de son histoire, mais elle progresse et dans le bon sens.
Jean-Dominique Giuliani est président de la Fondation Robert Schuman. Sa chronique est également proposée sur le site de la Fondation www.robert-schuman.eu et Canal Académie vous propose aussi la lecture de cette chronique dans son intégralité.